présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La liberté des dieux. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. a été la fin de la radio. Les auditeurs se sont blasés. Je ne crois pas au sondage. Les gens écoutent peut-être la radio tous les jours, mais peu et en zappant beaucoup, plus que pour la télévision. Et puis ces sondages sont faits par les publicites pour demander si les gens écoutent bien leur radio. Les radios privées ont tué les radios généralistes où le public de tout âge trouvait quelque chose, une émission, son émission, de tout âge et de tout goût. Ces émissions étaient faites pour des thèmes et non pour un animateur, qui en général, cet animateur, ces temps-ci, sont plutôt des animateurs pas très intelligents. Maintenant, on est obligé de changer de station chaque fois que l'on veut changer de genre musicaux ou autre, infos, etc. Chaque radio est spécialisée. Et beaucoup ne sont que des jukebox qui, en plus de la musique, il y a de la pub. Les radios privées et leur nombre ont tué la radio comme média de création. Mon voisin du dessus est un rat, un gros rat, lourdeau, à lunettes, bétifiant. Un rat qui rongerait sans arrêt, courrait constamment en tapant des pieds, dérangerait tout, tirant les meubles, jour et nuit, même après minuit. C'est une espèce de grosse bête nuisible qui reste enfermée chez lui à courir et déplacer les meubles. Je me dis que si c'était un rat, je pourrais mettre de la mort au rat. Mais cette grosse chose, flasque, si on la tue, qu'est-ce qu'il faut en faire de cette chose laide, flasque et puante? Il me rappelle, au physique, un héros du livre de la conspiration des imbéciles. Depuis 7 heures ce matin, il fait grincer ses meubles, ce con de 30 ans. Difficile à l'homme et la femme de s'harmoniser, parce qu'ils ont des buts différents dans la vie. L'homme est universel et a besoin de s'exprimer par les autres et pour les autres. C'est tout aussi important pour lui que de faire l'amour. Il a besoin en plus de l'amour d'avoir sa place dans la cité, pas que politiquement, mais de différentes façons. La femme a besoin, pour son bonheur, que le monde soit à ses pieds et ramène-toi à elle. C'est le contraire de l'homme qui lui veut être utile aux autres, dominé par l'utilité en se faisant une place parmi les autres. La femme veut un homme à elle seule et qu'il soit tout à elle et rien qu'à elle. Ne penser, ne veut qu'elle. L'homme ne le peut et veut autre chose, parce qu'il a besoin d'autre chose, autrement il étoufferait. Alors la femme se sent frustrée, bien entendu, pour tout. Les hommes et les femmes sont comme ça, en tout cas, dans leur grande majorité. On a voté pour les régionales et c'est la gauche qui l'a emporté. Alors on va sûrement faire quelque chose pour les intermittents, les profs, les chercheurs, les étudiants. Mais pour les autres, rien. Pourquoi? Parce que les politiques, les journalistes, les intermittents, les chercheurs, les profs, les étudiants font partie du même univers. Ils ont tous été ou ont tous eu chez eux des étudiants. C'est tous le même milieu, intello gauche caviar. Ils ne connaissent pas les chômeurs, les anciens ouvriers, etc. Ils ne font pas partie de leur monde. Ils ne les fréquentent pas. Alors, les étudiants, bourgeois, les intermittents, les fonctionnaires, là, les politiques et les journalistes s'en inquiètent parce qu'ils connaissent ce milieu-là. Ils font partie de leur monde. Quand ils en parlent, ils disent que c'est la France entière qui grogne. Les journalistes parlent tous les jours de leur grève, de leur protestation. Mais si des employés, des chômeurs manifestent, on en parlera un petit peu, juste ce qu'il faut et juste une seule fois. Bien entendu, sauf si c'est des gens, des hôpitaux, des fonctionnaires. Parce que là aussi, les journalistes connaissent. Ils font partie, comme les hommes politiques, du monde de la gauche caviar. Enfin, la gauche caviar connaît ce monde-là. Vous pouvez voir, c'est que ceux qui ont le plus manifesté et qu'on a le plus vu ne sont pas ceux qui sont les plus malheureux. Ce sont des gens qui sont issus de la petite et de la moyenne bourgeoisie. Même les intermittents sont aussi de la bourgeoisie. C'est la bourgeoisie qui défend ses intérêts. Mais les gens de la base, comme on disait, ne manifestent plus et l'on ne parle plus de leurs problèmes. C'est la petite et la moyenne bourgeoisie qui a pris la place de la base pour défendre ses intérêts, ses pouvoirs d'achat, son pouvoir d'achat, et a laissé en plan les vrais pauvres, ceux qui n'ont plus rien. La petite bourgeoisie, la moyenne, la petite bourgeoisie se défend ses intérêts pour le pouvoir d'achat et pour ses emplois. Les politiques et les journalistes s'occupent plus de leurs problèmes en oubliant les vrais pauvres et les employés. Parce qu'ils sont ceux, eux aussi, les journalistes, des bourgeois. Donc, les bourgeois défendent les bourgeois, les intérêts bourgeois, et chose triste, c'est que les syndicats font eux aussi la même chose. Ils sont désolidarisés des petits, des pauvres, et maintenant, ils défendent la petite et la moyenne bourgeoisie. Tout le monde veut être fonctionnaire. Pourquoi est-ce que les chercheurs devraient-ils être tous fonctionnaires? Est-ce que le privé ne pourrait-il pas financer une partie de la recherche? Et pourquoi est-ce que les chercheurs devraient-ils pas, en tout cas ceux qui sont fonctionnaires, avoir un but précis pour leur recherche? Et pourquoi est-ce que les chercheurs devraient-ils pas, en tout cas ceux qui sont fonctionnaires, avoir un but précis pour leur recherche, tel faire des recherches sur le vieillissement, par exemple, et d'autres chercheurs faire des recherches un peu plus libres, mais pas tous. Il faut tout de même qu'ils aient un but, les chercheurs. Des étudiants veulent être qui étudient pour être professeur de gym veulent imposer des places de professeur de gym à la sortie de leurs études. Pourquoi Est-ce qu'un jeune qui apprend la mécanique ne devrait-il pas lui aussi imposer une place après ses études? C'est normal pour les étudiants, mais pas pour le futur ouvrier. Pourquoi? Parce que l'étudiant est fils de bourgeois et le pauvre jeune qui est dans un collège technique est fils de gens qui n'ont rien. Je faisais des achats avenue Saxe dans le magasin TED. Depuis plus de 20 ans, le directeur du magasin est parti. Alors je tiens à dire un petit au revoir à Monsieur Eddy qui m'a beaucoup aidé pour le choix des achats qui était très sympathique durant tous ces 20 ans. Je lui souhaite bonne chance pour son nouvel emploi. Le 22 mars 2004, j'ai pris le TGV pour Paris à 8h du matin de la gare de la Part-Dieu. Je vous ai déjà parlé de mes ennuis pour me faire faire mes tickets de train. D'habitude, je pars plus tôt, mais là, je n'avais pas envie d'y aller. J'étais fatigué. Mais il fallait absolument que j'y aille parce que j'avais 3 réunions à la Maison de la Chimie, 28 rue Sainte-Catherine. Donc, à 8h, j'entre dans mon compartiment du wagon TGV. À côté de moi, il y a une jeune fille, un peu forte, cheveux longs, châtain, l'air sympathique, type hispanique. En face de moi, un homme, mince dans les 45 ans. Et à côté de lui, un jeune homme dans les 23 ans, mince, cheveux mi-longs, tête sympathique avec un petit nez court, genre anglais. Grandes lèvres, yeux bleu marron foncé, peau très blanche, habillé d'un manteau court marine, pantalon jean velours bordeaux, un peu taché. Il a un sac de voyage, petit sac en toile marine. Le TGV se met en route alors et roule au pas. Tout doucement, vraiment tout doucement. Nous quittons la gare et Lyon, sa banlieue. Le train roule toujours aussi doucement. Nous ne sommes pas contrôlés. Le jeune homme qui est en face de moi, ou plutôt à côté de l'homme qui est en face de moi, met sur son accoudoir de dos un pull marine clair en boule pour reposer sa tête sur le côté, ferme les yeux et me montre son cou long et blanc avec ses oreilles découvertes en plus de son visage. Ses cheveux sont noirs, mi-longs. Il ferme les yeux et ne bouge pas, ni le visage, ni son corps. Les bras le long de son corps ou les mains se rejoignent entre ses cuisses. Mais il ne bouge pas, ni n'émet de bruit. Après, à peu près une demi-heure de trajet, au pas, le TGV s'arrête en rase campagne. Le haut-parleur du train, une voix masculine, nous dit qu'il y a un problème technique, mais que le chauffeur va y remédier. Les voyageurs ne semblent pas faire attention. Chacun continue à faire ce qu'il a commencé à faire. L'un tape sur son ordinateur, l'autre téléphone, malgré que c'est interdit dans ce compartiment. Le jeune homme ne s'est pas réveillé, ne bouge pas, ne bouge pas d'un pouce. Personne ne dit rien de l'arrêt. Après plus de 2 heures, l'on lui dit que compte tenu que l'on ne peut pas réparer, on va retourner à la part Dieu. Un long moment après, on nous dit qu'un TGV viendra nous prendre. Personne ne dit rien. Après un long moment, un TGV se met en face d'une autre. Et on nous dit de nous approcher de la sortie. Le jeune homme finit par se réveiller. Il ouvre les yeux et fait comme tout le monde. Le bout de notre wagon est le bar. On nous dit d'attendre. Nous attendons. Le jeune homme s'est arrêté à côté d'un tabouret bas. Haut, je veux dire. Je lui souris. Nous disons 2 mots. Puis, le transfert se fait. Comme les trains ne sont pas arrêtés à un quai, la hauteur pour accéder à la marche pour entrer dans le wagon est très haute. Alors ils ont mis des escabeaux en métal et 3 agents de la SNCF nous aident à passer d'un train à l'autre. Malgré les bagages, les plus de 400 personnes, tout se passe très bien. Et on a dit de reprendre nos places comme le train que nous avons quitté, puisque c'était le même TGV. Et nous sommes assis. Le jeune homme s'est réinstallé pour dormir. Le TGV est parti. Le jeune homme a dormi comme la première fois. Comme ça, sans bouger, d'un cil, sauf une fois, où il a fait un geste avec sa bouche, comme s'il gobait quelque chose. Mais ça a duré un rien du tout. Le voyage a continué sagement. Nous sommes arrivés à la gare de Lyon, à Paris. Le jeune homme s'est réveillé avant que le train ne s'arrête. Nous sommes regardés, souris. Je lui ai dit qu'il avait dormi plus de 4 heures sans s'arrêter. Il m'a souri et m'a dit qu'il avait besoin de rattraper des heures de sommeil. Puis il m'a fait un grand sourire avec d'immenses yeux. Il me semblait très sympathique et simple comme du bon pain. Oui, comme du bon pain. Puis nous sommes levés et allés à la direction de la sortie. Arrivé vers la sortie, j'étais derrière lui. Je suis sorti et lui est allé plus loin. Une fois sorti du train, je ne sais pas pourquoi, je voulais voir si je le voyais encore une fois. Je l'ai vu de loin. Il semblait chercher quelque chose dans sa poche revolver. Il ne m'a pas vu. J'ai continué mon chemin. Dans le hall de la gare, on m'a donné des enveloppes parce que le TGV était en retard pour avoir un petit remboursement et pour me demander mes impressions. À la sortie de la gare, côté, disons, place centrale, en face de la rue de Lyon, j'entends que quelqu'un court après moi et me dépasse et voit avec surprise le gentil jeune homme dans le train qui me tend la main et me dit « Au revoir, monsieur ». Je lui dis « Au revoir ». Lui demande où il va. Il me dit qu'il va prendre le métro près de la Seine. Je lui dis que je vais prendre le car. Il me dit qu'il ne sait pas où sont les arrêts de car. Il me dit « J'espère que la suite de votre voyage se passera sans encombre ». Je le remercie et il me quitte. Quelques secondes après, il a disparu. Je me disais que j'aurais dû l'inviter à déjeuner. J'étais furieux et semblais avoir perdu un être cher. Je me disais qu'il ne devait peut-être pas être bien fortuné. Nous aurions pu sympathiser. Maintenant, c'est fini. C'est trop tard. Quel imbécile je suis. Je m'en veux beaucoup. Il me semblait si gentil. Tristement, je vais prendre mon car pour aller rue Saint-Dominique. Le trajet est long, mais ça me permet de voir Paris. Arrivé à la rue Saint-Dominique, je cherche un restaurant. En trouve un presque en face du ministère de la Défense. Le restaurant Le Roux Perrac. Charmant restaurant, mais assez cher. Entrée, salade, saumon, etc. Plat de résistance, beefsteak aux champignons, pommes de terre, etc. Et dessert, orange au citron, pour 31 euros. Mais c'était très bon. Pour 31 euros, sans les pourboires, bien entendu. Après le repas, j'ai été obligé, c'est d'aller à cette réunion 28 rue Saint-Dominique à la maison de la chimie, réunion de la SCAM. Comme d'habitude, beaucoup de blablabla, surtout de gens qui veulent tout révolutionner, collectif de ceci ou de cela. Laurent Duvivier, délégué général, vient me dire bonjour et me remercier d'être toujours fidèle à toutes ces réunions. Monsieur Duvivier est un homme charmant et qui travaille énormément pour défendre les droits des auteurs. Après la réunion, je suis retourné à la gare. Le train n'était pas à son quai habituel et parti un peu en retard. Dans le wagon, il y avait un Asiatique qui travaillait à l'ancienne, avec stylo, règle, papier et agrafe. Il semblait bien s'appliquer. En face de lui, un autre avec un ordinateur. Celui à l'ancienne, j'ai beaucoup aimé parce qu'il travaillait d'une façon détendue et puis il semblait énormément s'appliquer. Marqué. Peut-être est-ce dû à mon âge et c'est pour ça que j'ai aimé plus le côté artisanal de la personne qui travaillait manuellement que l'autre. C'est peut-être une idée d'un vieux monsieur comme moi. Le trajet s'est bien passé sans histoire. Et nous avons été contrôlés cette fois-ci. Je suis arrivé à Lyon sans encombre. Je me suis endormi, fort tard ou tôt, en pensant au jeune homme bien gentil que je ne reverrai plus. Mais il faut se faire une raison Il y a tant de gens que nous croisons dans la vie et qu'on ne reverra, qu'on ne voit plus. Et on ne sait pas qui ils sont, mais on sait qu'ils ont laissé en nous une trace indélébile. Eux ne le savent pas. Si ces personnes l'apprenaient, elles seraient bien surprises, car elles n'auraient sûrement aucun souvenir de nous. Nous ne leur aurions fait aucun effet. Il aurait fallu peu de choses pour que certaines personnes puissent entrer dans notre vie. Mais le hasard est comme ça. C'est sans doute mieux. Cela évite peut-être les déceptions. Et là, les personnes ne peuvent pas nous décevoir. Notre société s'est construite avec un système qui va à l'encontre de la santé physique, psychologique de l'homme. Pour que les fabricants de cigarettes puissent continuer à fabriquer des cigarettes et à ne pas être au chômage et buralistes aussi, il faut que les gens continuent à fumer. Pour que les vignerons et les grossistes en vin ne puisse pas être au chômage, il faut continuer à boire du vin et même à en boire plus. Pour que les fabricants de machines automatiques et les produits que l'on met dans ces machines automatiques puissent avoir du travail, il faut que les jeunes gens continuent à manger leur gâterie. Il faut pour que certaines personnes avec les catégories de la société puisse continuer à faire des bénéfices et à ne pas être au chômage, il faut que les autres personnes continuent à manger, boire et fumer. Il faut continuer à avoir des cancéreux, des alcooliques et des obèses. L'Europe élargit une catastrophe. Certains États, avant d'entrer dans l'Europe, pour se faire de l'argent, plantent des plants de vigne parce qu'ils savent qu'on va les aider pour les déplanter et recevront des subventions de l'Europe. Les pays qui rentrent dans l'Europe ne pensent qu'aux avantages qu'ils auront. Les États d'Europe ne servent qu'à une seule chose, à la mafia et aux industriels. Le truc de la monnaie unique n'a été accepté par les Français que grâce à une comédie de Mitterrand qui a joué les mourants pendant le débat qui avait lieu sur ce sujet. Mitterrand est l'homme qui a le plus nui à la France. Et pourtant, c'est un socialiste. Un pays qui a deux politiques ne peut pas être gouverné. C'est ce qui se passe en France. Les régions auront une politique de gauche et le gouvernement de droite. Ce qui fait que ni l'un ni l'autre ne pourra avoir sa politique. Et puis, pourquoi les régions? On avait les départements, cela suffisait. Mais non, peut-être pas pour les politiques qui cherchent à avoir des places. La France n'est plus un pays souverain. C'est un simple pays, un simple État européen. Il n'y a pas de quoi s'en réjouir. c'est pas marrant d'être jeune. Il faut faire attention à des tas de choses. Être habillé comme les autres, bien suivre leur mode, faire comme les amis, ce qu'ils aiment, avoir une copine, même une bécasse, aimer la musique, mais surtout les chansons du jour, mais attention que celles que ses potes aiment, parler leur langage, bête et débile, avoir les mêmes idées politiques, être de gauche, vert, tout en dégueulassant la ville, en jetant n'importe où ses canettes et ses paquets McDo, en mettant des affiches, ses graffitis n'importe où. Être contre tout, surtout ne pas aimer les vieux, ce sont des cons. Être vieux, c'est avoir plus de 5 ans que soi. Et ce sont des vieux cons. Se sentir le centre du monde et plus fort que les autres. Surtout, avoir toujours raison. En résumé, le jeune n'est pas libre. Il est dirigé par la mode. Non, il est prisonnier de la mode. Voici un sujet que j'aimerais utiliser, qui me semble très intéressant, mais assez difficile, et puis serait-il compris comme un sujet de fiction, et que ces idées sont des idées d'un personnage. Mais ce serait tout de même intéressant à faire, j'aimerais bien pouvoir le faire. Voilà ce que penserait le personnage. Depuis 1974, nous sommes en guerre. Oui, vraiment en guerre, mais une guerre non déclarée et terroriste, une guerre de lâche terrible. Il vaudrait mieux, c'est une vraie guerre classique, avec déclaration et armée. Là, au moins, nous connaîtrions notre ennemi et les verrions. Ici, l'ennemi est de partout. C'est infiltré de partout et a mis à sa cause des gens de chez nous. En guerre normale, l'on dirait qu'ils sont des collaborateurs. Là non, ils sont des idéologues qui ont pris la cause des autres. Le monde occidental, et surtout la France, sont déjà des faits perdus. Parce que l'ennemi s'est infiltré de partout, et avec la bénédiction des droits de l'homme. Le terroriste ne peut défendre une bonne cause lorsqu'il se comporte comme un criminel de grande échelle. Pour détruire des groupes extrémistes, il faut s'infiltrer dans leur groupe, en faisant croire d'être des leurs et diviser les gens les uns contre les autres, en jouant sur leur orgueil. Chaque fois qu'un groupe s'éclate, en plusieurs groupes, mettre des gens dans chaque groupe pour les détruire, etc. Il faut que ce soit le groupe qui s'auto-détruise et exécute leur chef eux-mêmes. Pour cela, il faut créer la zizanie par l'orgueil. Eux font la même chose. Ils nous détruisent par l'intérieur en s'infiltrant et créant la zizanie chez nous, en faisant en sorte que de notre défense, en faisant en sorte que des nôtres, défendre leur cause en brandissant les droits de l'homme. La bonté peut en temps de guerre être plus dangereuse que le mal, et ils le savent. Notre principale faiblesse, c'est d'avoir mal utilisé les droits de l'homme. Je suis humaniste, et pour les droits de l'homme, mais lucide. On ne peut pas défendre ce qui est indéfendable. Et l'on doit partager et protéger son prochain de la destruction. Je ne suis pas pour les terroristes. Je suis pour les droits de l'homme, de tous les hommes, donc aussi des Français. Et je suis bien entendu contre tout terroriste, je le dis encore une fois, même idéologique. Je suis et je veux être un homme libre dans mes idées, si ce n'est de mon corps qui, bien malgré moi, se dégrade. Une fois mort, c'est la fin. Et c'est là qu'on en est rejeté, à cause du vide qu'on laisse. Pour moi, parce que je ne suis rien, et un rien vide, ça ne peut être regretté. Si je ne peux créer, je meurs. Voilà, j'ai fini. J'ai fini de vous dire, parler toutes mes idées et ce que j'ai fait durant ces derniers mois. Pardonnez tout ce blabla, mais à qui j'aurais pu dire tout ça, si ce n'est qu'à vous, public? Vous êtes mes seuls amis. Place à la fiction, à l'histoire. Bien entendu, les idées de mes personnages ne sont pas les mêmes que les miennes. Souvent, c'est le contraire. Mais il faut bien se dire que dans toute bonne histoire, il faut des bons et des méchants. sombre. Seule lampe de chevet qui est sur une commode éclaire une partie du mur. Elle n'éclaire pas assez les visages des deux jeunes personnes qui sont l'un près de l'autre et il est difficile de les décrire. Une femme est assise sur une chaise Louis XV qui est contre le mur. Elle a une robe noire, mince, les cheveux blonds, courts. À genoux, penché contre elle, un homme, costume sombre, mince, blond, cheveux courts, petite moustache fine et des lunettes de métal. Il lui parle très bas.
Ne pleure pas, Odile. Nous allons quitter tout ça et recommencerons une autre vie.
Elle lui dit nerveusement, il ne laissera pas partir.
Il ne pourra pas faire autrement. Demain, je lui dirai et nous partirons.
Il l'embrasse sur le front et lui dit,
plus personne ne te fera du mal. Tu vas guérir et nous serons heureux.
Tu le crois?
Oui.
Elle lui dit,
j'y penserai toujours.
Il lui dit,
nous irons voir un médecin et tu guériras.
Tu ferais mieux, c'est de me laisser. Je ne peux pas.
Je ne te laisserai jamais.
Il l'embrasse sur le front.
Il faut nous préparer. Et nous allons partir demain matin.
Je ne peux pas.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique le scénario original de Junier Jean-Pierre, La liberté des dieux. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre.